dirait des nouvelles est en direct du Festival d'Avignon. Jean-François Cadet, Mickaël Goncalves, Baptiste Antoine, Philippe Nadel.
Bonjour, bonsoir. L'amour vainqueur, ces mots, on peut les lire sur une pancarte dans la pièce d'Adamoff, La Parodie, dont nous parlerons peut-être un jour dans cette émission. C'est aussi le titre de la pièce jeune public que le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, présente cette année. Mais si l'amour peut être vainqueur, c'est parce que l'amour est aussi un combat, une résistance, une renaissance, une quête d'absolu, comme dans Ventre, la pièce du Québécois Steve Gagnon, que met en scène Vincent Goethals, qui sera tout à l'heure avec nous. L'amour, Julie Duclos continue de l'explorer. Après Roland Barthes et ses fragments d'un discours amoureux, après Masculin féminin et Nos serments, voici l'amour tragique et interdit, pas forcément vainqueur celui-ci, l'amour de Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. Le spectacle se joue encore demain et après-demain à la Fabrica, ici au Festival d'Avignon. VMDN est, comme vous le savez, pour toute cette semaine en direct de l'Hôtel d'Europe et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Julie Duclos. C'est votre première création ici à Avignon. C'est toujours délicat de choisir pour se lancer dans le grand bain, pour faire le grand saut. Pourquoi avez-vous choisi Péléas et Mélisande ?
Je crois que à l'endroit où j'en étais, sans doute de mon parcours, j'avais envie d'une œuvre qui me provoque et qui m'ouvre l'imaginaire, c'est-à-dire à la fois une œuvre, d'abord un texte, monter un texte, puisque mes premiers travaux étaient plutôt des dramaturgies, voilà, inventées. Là, c'était vraiment l'idée de
on
monter.
On va travailler au plateau. Là, on est plutôt dans le classique.
Oui, voilà, j'avais envie aussi d'être provoquée par une écriture et l'écriture de Maeterlinck est très forte parce qu'elle brasse beaucoup d'images, elle est très poétique. En même temps, elle est très concrète, donc c'est ça aussi qui faisait qu'elle me correspondait, au sens où il s'agit de personnages et de situations de la vie. Enfin voilà, il y a aussi une chose très simple à cet endroit-là. Donc c'est cette espèce de presse de paradoxe qui m'a attirée tout de suite et dont j'ai senti que ça contenait aussi beaucoup de possibilités de mise en scène en termes d'espace. Que voilà, que ça allait sans doute faire appel au son, à la vidéo, à la lumière, et évidemment la direction d'acteur. Donc je me suis dit allons voir.
Alors c'est vrai que c'est une langue qui ouvre sur l'imagination, sur le rêve, sur le fantasme. Est-ce que vous diriez, Julie Duclos, que cette pièce est une pièce qui s'entend en creux ?
Ah oui, complètement, parce que c'est ce qui frappe dans l'écriture. Il y a des points de suspension partout. D'abord, donc c'est une écriture vraiment en suspension où il y a une résonance permanente. Donc il y a de la place. C'est une écriture métaphorique en ce sens, c'est-à-dire qu'on peut toujours entendre aussi d'autres choses que simplement ce qui est dit. Enfin, il y a toujours comme un monde invisible plus vaste aussi que ce qui est dit. Donc ça nous invite aussi à, et avec l'acteur, faire un travail important sur les paysages intérieurs, et en même temps nous aussi en mise en scène, comment faire sentir ces interstices, voire ces ellipses, parce que la pièce est très ellipsée aussi.
Alors le personnage central de la pièce, c'est Mélisande, qui est jouée par Alix Riemer. C'est un personnage qui est en lui-même très, très mystérieux, en fait. On ne sait pas grand-chose sur son passé, y compris d'ailleurs lorsque la pièce se termine, Julie Duclos.
Oui, d'ailleurs, à la fin, Arkel dit « c'était un petit être mystérieux comme tout le monde ». J'aime bien cette phrase, elle est aussi comme paradoxale. Oui, elle est mystérieuse, on ne sait rien d'elle. Sans doute, c'est une figure quand même d'exilée, de fait, puisqu'elle dit qu'elle vient de loin, qu'elle s'est enfuie, on dit qu'elle pleure beaucoup, qu'elle a vu des choses sans doute épouvantables, mais on ne sait pas quoi.
Elle a souffert, en tout cas.
Elle a souffert. Donc c'est vrai que quand ça commence, elle a déjà une histoire. Et c'est peut-être ce mystère aussi qui va être comme une force centrifuge autour de laquelle, enfin, tout le monde va tourner.
Donc une figure de l'exil qui a souffert, on pense avec l'actualité évidemment aux migrants, vous y avez pensé aussi ?
Oui, bien sûr. Alors, les migrants, évidemment, c'est un phénomène aujourd'hui, qui est fort et qui, en même temps, malheureusement, de tout temps, les guerres, les exils, les persécutions. Donc c'est presque ça aussi qui fait que la pièce a quelque chose d'intemporel, et en même temps, étant donné tout ce qui se passe aujourd'hui, ça pas seulement par la figure de Mélisande, mais par tout le contexte de la pièce aussi, de ce monde qui va s'effondrer. C'est comme il y a quelque chose, je trouve, qui résonne avec notre inquiétude collective, et c'est plus vaste que la question des migrants.
Alors Mélisande va être recueillie par un prince, le prince Golo, qui va s'occuper d'elle, qui va l'épouser, qui va l'emmener au château de son père, et c'est là qu'elle va rencontrer le demi-frère de Golo, qui s'appelle Péléas et qui est joué par Mathieu Sampeur.
Donne-moi ta main d'abord ta main.
Voilà. Je ne puis me pencher davantage.
Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main.
Je ne puis pas me pencher davantage. Je suis sur le point de tomber. Oh, mes cheveux descendent de la tour.
Qu'est-ce que c'est, tes cheveux? Tes cheveux descendent vers moi.
Toute ta chevelure, Mélisande. Toute ta chevelure est tombée de la tour. Je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres. Je la tiens dans les bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit.
Laisse-moi, laisse-moi.
Non. Je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois. Ils viennent de si haut, ils m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils venaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde. Regarde, mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du saule. Ils s'échappent de toutes parts. Ils tressaillent, ils s'agitent. Ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Ils m'aiment mille fois mieux que toi.
Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir.
Non, je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit, toute la nuit.
Péléas,
tu ne t'en iras plus. Je t'embrasse tout entière en baisant tes cheveux et je ne souffre plus au milieu de leurs flammes. Entends-tu mes baisers? Ils s'élèvent le long des mille mailles d'or. Il faut que chacune d'elles t'en apporte un millier et en retienne autant pour t'embrasser encore quand je n'y serai plus.
On est frappé, Julie Duclos, par la sensualité, la beauté, la musicalité, la poésie de la langue de Maeterlinck, tout en restant très simple, très concrète, très, très légère, très aérienne et en même temps très, très tellurique. C'est compliqué de faire sentir tout ça.
Oui, c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que ça a réuni des choses qui, a priori, marcheraient pas forcément ensemble. Là, le passage qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'envolée, enfin le passage le plus poétique de la pièce. Enfin, Péléas a cette capacité à ses envolées. Tous les personnages ne parlent pas comme ça. Et il y a effectivement, oui, un passage, c'est celui-là. Donc oui, c'est un vrai enjeu avec les acteurs. C'est toujours à la lisière, quoi. Comment à la fois ancrer ces mots-là dans le présent, dans la vie, en fait. C'est-à-dire, c'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie comme ça qui flotterait au-dessus du réel. Comment l'ancrer comme ça dans, c'est des rapports, c'est des situations, et en même temps avoir rencontré cette capacité d'élévation qu'a la langue, et c'est nécessaire. Sinon, si on est trop prosaïque avec cette langue, c'est pas bon. Et si on est trop poétique et comme ça, c'est compliqué aussi. Donc
faut trouver le
fouet. C'est un équilibre.
Le juste milieu, justement. Comment faire entendre aussi la dimension de l'urgence, la dimension du risque? Parce que c'est un amour interdit que cet amour. C'est même un amour non dit, déjà, dans un premier temps. Il y a une forme de tension comme ça qui vient s'ajouter, justement, au sentiment amoureux.
Oui, on en a beaucoup parlé avec les acteurs qui jouent Péléas et Mélisande, parce que c'est vrai que c'est important de cette espèce de comme s'il contenait des bombes, un peu, et qui fait aussi que chez Maeterlinck, il y a quelque chose qui est toujours plus vaste que simplement le drame bourgeois, l'amour interdit qui serait les amants avec le mari trompé. Enfin, il y a quelque chose de plus vaste que ça. C'est l'écriture de Maeterlinck, elle est quand même métaphysique, très spirituelle. Donc cette urgence chez Maeterlinck, elle est faite de plein de choses. C'est pas seulement attention, mon mari est dans le placard, on va nous surprendre. Enfin, c'est pas à cet endroit-là. C'est presque peut-être entre eux la notion de pressentiment, comme s'ils savaient déjà, comme si on pouvait déjà contenir la suite de notre histoire. Enfin, comme si la mort qui les
destin,
attend,
quoi,
oui, il y a des notions de
on
destin.
On a presque l'impression qu'il y a effectivement les grandes envolées comme celles qu'on vient d'entendre, et puis des moments où on a l'impression que les personnages, au contraire, marchent sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore, mais qu'ils marchent ça avec énormément de précautions, qu'ils sentent effectivement le piège.
Oui, peut-être parce qu'en même temps c'est pas justement, Maeterlinck parlait de tragique quotidien, c'est-à-dire justement le tragique qui n'est pas les Atrides, quoi, c'est-à-dire que ça se passe pas à cet endroit-là. Donc c'est peut-être ça qui amène cette espèce de pas d'inertie mais de densité, quoi, de tension, mais au-dessus de, ils sont toujours au-dessus un peu du gouffre, quoi, en fait.
Je t'aime.
Je t'aime aussi.
Ok, tu dis, Mélisande. Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde, je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu?
Depuis toujours, depuis que je t'ai vue.
Oh, comme tu dis cela, on dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendue jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne peux peux pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne mens pas un peu? Tu ne me trompes pas pour me faire sourire?
Non, je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère.
Oh, comme tu dis cela. Ta voix. Oh, ta voix. Elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau avant toi. Je ne savais pas que tu étais si belle. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison. Je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvée. Je t'ai trouvée. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Oh, où es-tu? Je ne t'entends plus respirer.
C'est que je te regarde.
Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens, viens dans la clarté. Nous ne pouvons pas voir combien nous sommes heureux. Viens, viens. Il nous reste si peu de temps.
Non, non. Restons ici. Je suis plus près de toi dans l'obscurité.
Ombre, clarté, obscurité. On a l'impression que c'est un triptyque sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Julie Duclos. On a un peu l'impression que les personnages en permanence, et c'est vraiment le cas d'un bout à l'autre de la pièce finalement, naviguent en permanence entre lumière et ombre, entre clarté et obscurité.
Oui, oui, c'est vraiment une pièce sur la lumière. Ils sont tout le temps en train d'en parler. Ils sont tout le temps, effectivement, et c'est, comment dire, ça imprime quelque chose de très fort en eux. Enfin, c'est pas juste anecdotique. Enfin, chez Maeterlinck, l'espace, puisque l'ombre et la lumière, c'est aussi de l'espace. C'est pas, c'est pour ça que ça pose des questions de mise en scène, parce que c'est pas une petite chose, quoi. C'est quelque chose qui, presque comme si c'était parfois indémêlable.
Donc, il fallait que leurs sentiments, que leurs émotions soient visibles pour les spectateurs, donc de matérialiser cette alternance clarté-obscurité sur scène.
Bah en tout cas, oui, eux, ils sont sans cesse en train de dire, soit on a besoin de rester dans l'obscurité, comme si c'était dans l'obscurité qu'on pouvait se dire les choses de la vérité, ou comme, enfin, c'est à voir aussi avec la vérité, le mensonge, il en est beaucoup question dans la pièce, donc d'endroits cachés, ou, oui, ça, c'est très fort dans la pièce, c'est permanent.
Et le décor a été conçu de façon à ce que vous puissiez jouer, comme ça, avec les ombres et les lumières?
Oui, on voulait un décor qui regorgeait de possibilités, qui puisse ne pas arrêter tout de suite les choses, mais c'est pour ça qu'il y a, voilà, des châssis en mouvement, une boîte qui avance, aussi pour le côté épique, parce qu'en réalité il y a beaucoup de suspense dans cette pièce, enfin c'est quelque chose qui avance, mais on pourrait dire comme le sort, quoi, comme avancer vers son propre sort, donc il y avait besoin aussi d'une scénographie en mouvement, en ce sens.
Alors justement, avec ces panneaux qui coulissent, avec ces rails qui font avancer la structure du fond du plateau vers le public, il y a aussi les grands claques des projecteurs qui sont vraiment impressionnants, qui sont massifs et qui donnent évidemment un goût de cinéma. Vous adorez le cinéma, Julie Duclos. Et c'est vrai qu'il y a des scènes filmées, hein, qui alternent avec les vraies scènes de théâtre sur ce plateau. Qu'est-ce que la vidéo, qu'est-ce que le cinéma apporte de plus à une mise en scène comme celle-ci que le théâtre?
Bah effectivement, j'ai eu l'impression sur ce projet, c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec le cinéma, enfin c'est mes rêveries vont aussi au cinéma. Là, c'est vrai que c'est comme un grand écran qui puisse être à la fois opaque et amener des transparences, donc ça permet l'alternance du théâtre et du cinéma, mais en réalité j'ai eu l'impression que c'était comme si tout l'ensemble aussi de la théâtralité qu'on amène avait à voir avec le cinéma, c'est-à-dire le fait de créer des focales, des travelling, avoir une valeur de gros plan, ou d'où on regarde les choses, comment on regarde les choses, et c'est une pièce aussi sur le regard, donc c'est comme de, en mise en scène, jouer avec le champ contre champ, enfin finalement un langage qui est aussi celui du cinéma.
Mais la pièce commence justement sur un écran. On découvre d'abord des images en noir et blanc qui montrent un monde pas particulièrement sympathique, un monde un peu en chaos. Il y a même un champignon atomique, je crois, parmi les images. Et puis ensuite, il y a la scène de la rencontre entre le chasseur Golo, donc le frère de Péléas, hein, je le rappelle, et Mélisande. C'est une scène filmée. Vous l'avez tournée comme une scène de cinéma ou comme une scène de théâtre?
Oh, vraiment comme une scène de cinéma, d'ailleurs avec une équipe de cinéma, une chef opératrice, voilà, dans la forêt domaniale de Rennes. Et c'est vrai que j'avais envie de commencer, que cette première scène, peut-être que c'était une façon de poser le là et d'amener quelque chose de contemporain tout de suite, parce que le cinéma, ça a cet atout, c'est plus jeune que le théâtre, donc on travaille moins avec les signes, avec ce que ça renvoie d'histoire du théâtre, donc d'un coup c'est le réel, le cinéma. Donc une fille dans une forêt, c'est d'un coup très concret, donc J'ai envie de commencer comme ça.
Ouais. Et donc tout au long du spectacle, il y a d'autres scènes effectivement filmées. C'est souvent les scènes d'extérieur en fait. Mais il y a aussi des scènes d'extérieur qui sont des scènes de théâtre. Comment vous avez choisi ? Parce qu'il y a beaucoup de changements de lieu hein, dans la pièce.
Oui, oui, c'est vrai, je me rends compte. C'est vrai que c'est des scènes d'extérieur et que c'est pour ça aussi que j'avais envie que le décor soit en mouvement parce que Maeterlinck, on dirait d'ailleurs qu'il l'a écrit comme au cinéma, puisqu'il passe d'un coup, on est dans la forêt, puis pouf, on est dans une chambre du château.
Oui, il y a beaucoup d'ellipses. Oui.
Par les ellipses, il fait des raccords sauvages, comme on ferait au cinéma, donc ça pose des questions de représentation tout le temps. Comment on fait pour passer d'une scène dans un lit, la chambre, à la forêt? Donc, c'est aussi ça les raisons d'avoir un décor qui bouge et qui puisse alterner aussi des sensations d'intérieur et d'extérieur.
Et puis, il y a des scènes un peu intermédiaires où le spectateur voit la caméra filmer les acteurs. C'est le cas des scènes dans lesquelles apparaît le petit Tignold, qui est le fils de Golo, alors que c'est pas le fils de Mélisande, hein, il est né d'un premier lit, et ces scènes-là, donc elles sont filmées sur le plateau du théâtre. Les spectateurs voient donc en même temps les acteurs sur le plateau et les acteurs sur l'écran. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dispositif médian, intermédiaire, ce dispositif spécial pour ces scènes-là précisément ?
C'est vrai que déjà en soi, j'ai toujours besoin à un moment donné de faire apparaître la machinerie, de faire apparaître les coulisses, rappeler que tout est faux pour qu'on puisse y croire davantage. Peut-être, enfin, ces frottements-là m'intéressent en soi et j'en ai besoin. Et effectivement, cette scène du père avec l'enfant, ça s'apparente vraiment à une scène d'interrogatoire. Ça n'est que des questions ou une interview. Ça ressemble à une interview. Interrogatoire parce que le père est quand même un peu plus, il est difficile avec l'enfant, il veut savoir, il veut trouver la vérité. Et donc, et c'était aussi même par rapport au fait d'avoir un enfant, puisqu'on travaille avec vraiment des enfants de 9 ans, c'est pas rien, c'est pas comme un acteur, la présence d'un enfant. Donc c'était comme une espèce de mélange aussi de cette exposition, c'est ce père qui expose son enfant. J'avais envie aussi de le faire, par la mise en scène, d'accompagner, en fait, cette situation. Enfin, disons que le dispositif a à voir avec la situation.
Donc Golo, son fils, l'appelle petit père et il l'interroge au sujet des relations entre Péléas et Mélisande, que le gamin appelle petite mère. Extrait.
Péléas et petite mère, ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là?
Si, si, ils parlent toujours de moi.
Et que disent-ils de moi?
Ils disent que je viendrai aussi grand que vous.
Et tu es toujours près d'eux?
Oui, oui, toujours, toujours petit
père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs?
Ils ont peur quand je ne suis pas là.
Ils ont peur? Et à quoi vois-tu qu'ils ont peur?
Petite mère, toujours, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Ils sont malheureux, mais c'est dingue.
Cela ne prouve pas qu'ils aient peur.
Si, si, elle a peur.
Mais pourquoi dis-tu qu'elle a peur?
Ils pleurent toujours dans l'obscurité. Cela fait pleurer aussi.
Oui, oui.
Elle est pâle, petit père.
Patience, mon Dieu, patience.
Quoi, petit père?
Rien, mon enfant, j'ai vu passer un loup dans la forêt. Alors, ils s'entendent bien. Je suis heureux d'apprendre qu'ils sont d'accord. Dis-moi, ils s'embrassent quelquefois?
Ils s'embrassent, petit père? Ah si, si, une fois. Une fois qu'il pleuvait.
Ils se sont embrassés? Et comment? Comment se sont-ils embrassés?
Comme ça, petit père, comme ça. Ah, petit père, votre barbe, elle pique. Elle est un peu grise. Vos cheveux aussi. Tout gris, tout gris.
Ouais, et c'est ainsi dans les soupirs, dans les silences et dans la voix de Vincent Dicès qui joue Golo que l'on sent aussi la tension monter petit à petit. Vous disiez, Julie Duclos, que faire jouer un enfant sur un plateau, c'était quand même particulier. Là, c'est Clément Baudouin qu'on a entendu dans cet extrait, mais ils sont trois à jouer alternativement le rôle d'Ignol. Il y a aussi Sacha Huig et Elliot Lemoel, puisque les enfants n'ont pas le droit de jouer tous les soirs. Évidemment, le droit du travail est assez strict et on peut bien le comprendre. Ils ont quel âge déjà, ces enfants?
Ils ont 9 ans, parce que la loi, c'est qu'il faut qu'ils aient juste 9 ans au théâtre.
Si vous aviez pu, vous auriez choisi de prendre quelqu'un plus jeune?
J'ai cherché volontairement des enfants qui avaient 8 ans au moment du casting pour qu'ils aient 9 ans. Enfin, le plus petit, je voulais qu'ils soient le plus enfantin possible.
Mais alors, comment à cet âge-là, on peut se retrouver sur la scène du Festival In d'Avignon?
Eh ben, je les ai cherchés dans des partout, dans des cours, il y en a un qui est dans une agence de jeunes petits acteurs, et puis voilà, c'est passionnant comme aventure de travailler avec des enfants.
Diriger un enfant, c'est différent de diriger un comédien adulte, même débutant?
Oui, c'est un drôle de mélange entre... Oui, c'est différent parce que j'essaie de... Surtout pour cette scène-là qui est très longue, hein, parce que la partition d'Ignol, c'est... Il y a beaucoup de textes. Donc comme j'essaie qu'il soit le plus libre possible, donc quelque part de lui donner le moins de d'interdictions ou de règles, juste qu'il comprenne la situation et qu'il soit dans le présent, enfin dans sa réalité en fait. Pas de lui dire à chaque phrase, faudrait faire ci ou faire ça.
Donc, ça veut dire que chacun des trois a un jeu différent.
Ah oui, vraiment. Et puis en plus, ils sont singuliers tous les trois, vraiment, ils ont, et leur rapport même à ce que c'est que le théâtre à leur âge est très différent pour chacun. Donc il faut arriver à les placer tous les trois à cet endroit comme ça de réel et de d'innocence, mais qu'ils ont naturellement, et en même temps de rapport au texte, qui que ça soit comme si c'était eux qui répondaient vraiment ça.
Mais concrètement, comment ça s'est passé? Les trois ont répété en même temps?
Non, je voulais être chacun seul avec chaque enfant. Ils ont jamais répété en même temps. Donc bah faut refaire.
C'est Vincent Dicez là en l'occurrence qui à chaque fois,
oui, tout à fait,
avait un partenaire différent lors des répétitions.
Ouais, tout à fait.
Un mot du personnage de Golo qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises, qui est pas le personnage central de la pièce, et pourtant c'est lui qui fait progresser l'action, quoi.
Tout
Julie Duclos.
Oui.
C'est comment est-ce que vous appréhendez ce personnage? C'est d'abord un jaloux, c'est d'abord un homme qui souffre.
Bah c'est les deux.
Oui, c'est un peu la même chose. Vous allez me dire, mais on peut dire que c'est un candidat idéal pour le crime passionnel, non?
Ah oui, tout à fait. De toute façon, c'est un crime passionnel. Il va devenir de, c'est comme un processus de folie. Le parcours de Golo, il est magnifique, effectivement. C'est pas le rôle titre, mais c'est un rôle qui a un parcours. Effectivement, c'est par lui que tout advient, et qui est quand même, c'est son rapport à la vérité qui va le rendre fou. Et donc c'est en ce sens que ça devient aussi métaphysique chez Maeterlinck. C'est-à-dire, c'est pas simplement ils se sont embrassés, je les tue. Enfin, c'est pareil, ça va plus loin que ça. C'est comme si, parce que jusqu'à l'heure de la mort, il va demander la vérité. C'est-à-dire que même quand on la lui donne, ça questionne sur où est la vérité en fait. Des rapports, qu'est-ce qu'on peut attraper de l'autre, ça fuit tout le temps, et je pense que Golo se heurte à ça en permanence.
C'est le personnage le plus absolu de la pièce.
Ah, ils ont chacun un rapport Péléa, c'est très très absolu aussi, mais ça se vit peut-être sur des modes différents. Mais les envolées là qu'on a pu entendre de Péléa, c'est quand même aussi une façon de s'engouffrer comme ça dans les sentiments et dans. Mais lui, il est très absolu, mais lui, il est tout le temps en train de poser des questions en fait, toute la pièce Golo. Il est très pratique quoi. Il est concret. Il demande à l'enfant et le lit, sont-ils près du lit? Et l'enfant lui répond non, en fait, il regarde la lumière. Donc c'est le grand choc des. Lui, il serait comme un spectateur qui voudrait qu'il se passe quelque chose absolument.
Mais justement, c'est vrai que le spectateur, lui aussi, il n'arrête pas de se poser des questions. Julie Duclos, est-ce que vous avez trouvé des réponses dans cette pièce?
Bah, cette pièce, elle l'ouvre, elle l'ouvre tout le temps. On n'a jamais de réponse. Elle est même presque de plus en plus mystérieuse.
Ou même pas.
Ben, de toute façon, on est sans cesse en train, même sur le rapport de Péléas et Mélisande, on est sans cesse en train d'essayer de les attraper. C'est de là, d'essayer d'attraper leur relation, d'essayer d'attraper qui ils sont. Et on est bien obligé aussi, nous, de faire des choix. Les acteurs doivent en faire. Et en même temps, c'est comme une aventure. On continue, nous aussi, de courir après quelque chose.
Alors, c'est votre première aventure à Avignon, on le disait. Qu'est-ce que vous en avez déjà retiré à chaud?
Oh bah je ça demande beaucoup de concentration parce que c'est une exposition importante, et je suis évidemment très très heureuse de la réception du public. Là on a joué trois fois jusqu'à présent, et au-delà du fait que ça plaise, je veux dire il y a une densité d'écoute qui me touche beaucoup, et enfin qui est vraiment à l'endroit de Maeterlinck, et donc que ça puisse parler au cœur des gens, c'est quand même pour ça que j'ai voulu le monter, donc j'en suis très touchée.
Merci beaucoup, Julie Duclos, Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. C'est encore demain et après-demain sur la scène de la Fabrica, ici à Avignon.
Vous m'en direz des nouvelles est en direct d'Avignon.
Bonjour Vincent Goethals.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Votre parcours vous a toujours tourné vers les écritures contemporaines. Vous avez dirigé plusieurs théâtres, artistes associés également dans des structures du nord et de l'est de la France, surtout notamment à Roubaix, Dunkerque, Lille et aussi Bussan dans les Vosges, un lieu extrêmement particulier que vous avez longtemps dirigé. Vous êtes beaucoup donc tourné, je le disais, vers les écritures francophones contemporaines. Et ici à Avignon, vous mettez en scène un texte de l'auteur québécois Steve Gagnon. C'est à 20h10 à l'espace Présence Pasteur, relâche ce soir, ainsi que les 15 et 20 juillet. Ça s'appelle Ventre. C'est un huis clos avec deux personnages joués par Clément Goethals, qui est votre fils, hein, et Julie Sommervogel, un couple en crise. Alors elle l'a trompé, mais elle l'aime toujours, ça c'est très clair. Il fait le mort, il répond plus à ses appels. Alors elle va le voir. Elle va défoncer la porte de la salle de bain dans laquelle il s'est réfugié et lui crier son amour.
Je pensais que t'étais mort.
Rapport.
Tu réponds jamais.
Oui, ok, je sais.
Pourquoi?
J'ai pas envie de te parler.
Ok, ouais, ok. Mais ta mère, mon tabernacle, je lui réponds pas, elle non plus. Tu veux pas quoi? Tu veux pas lui parler, elle non plus? Elle t'a fait quelque chose, elle aussi ou quoi? Elle a couché avec un autre, elle aussi ou quoi?
J'ai pas le temps.
Oh, moi, je te la marde. Tu sais, tu vois, je pensais que t'étais, je sais pas, t'étais en train de moisir dans ta crotte comme on voit des fois des filles qui meurent dans leur crotte et qui se retrouvent décomposées 2 semaines plus tard.
Arrête, c'est con.
Non. Oh non, mais tu penses que quoi? J'ai dû l'air en état psychologique pour me raisonner. J'ai dû l'air dans un état pour m'arrêter. Non, pour tout, je m'arrêterai pas, je t'inquiète. Réponds-moi. Tu réponds plus à personne, pourquoi?
Pas le temps.
C'est nul. Pas le temps. Mais c'est complètement nul comme réponse de marre, de fond. Tiens, tiens.
Voilà, on entend bien, hein, les coups pleuvent, hein, sur ce pauvre garçon prostré dans sa baignoire. On y est, hein, Vincent Gothals, on est vraiment au début de la pièce. On est dans cette intensité incroyable qui se dégage à la fois du jeu de vos comédiens et des mots. On est frappé tout de suite et vraiment dès les premières secondes de la pièce par le rythme, par la rythmique d'enfer, en particulier du personnage féminin. C'est ça le principal risque de jeu pour les comédiens, c'est de pouvoir faire passer ce texte de façon claire, concrète, de façon aussi rapide, aussi hachée, aussi intense.
Mais écoutez, moi, j'aime les auteurs québécois, j'en ai monté beaucoup, et j'aime ces écritures. Steve Gagnon est un auteur à la langue très particulière, il écrit en verset, et pour moi, tout le travail avec les comédiens, c'est justement d'essayer de faire entendre le souffle de la langue. Et c'est vrai que la langue de Steve Gagnon est une langue rapide, hachée, et en même temps intense, comme vous dites.
Détonnante, donc, presque.
Oui, 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 oui. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle est à la fois très concrète et très crue, et elle ose des fulgurances poétiques magnifiques. Moi, c'est ce qui m'a plu d'abord dans la pièce, et effectivement avec cette construction dramaturgique qui est très belle parce que tout se passe toute une nuit et en même temps on n'a pas la chronologie de la nuit, donc c'est des moments particuliers dans la nuit.
C'est des fragments. Des...
Voilà, absolument.
Alors, il est québécois, vous le disiez, alors, ça s'entend dans le texte, hein, on entend des tabernacles, j'ai pas l'accent, excusez-moi, donc des tabernacles, des hosties, des mardes, pour dire merde, bien d'autres mots encore. Tous ces mots québécois, ça participe au charme de la pièce. Est-ce que c'est une saveur supplémentaire pour vous? Est-ce qu'il était important de les dire à la québécoise ou pas du tout?
Alors, surtout pas les dire à la québécoise, hein, c'est-à-dire ne pas faire du folklorisme. Hein. Donc, j'ai monté beaucoup d'auteurs, comme Daniel Danis, pareil, et ouais, je dis moi, Wad, dès qu'on est dans ça, moi, à chaque fois, je dis aux acteurs, on va dire Amadi, on va dire exactement ce que les mots disent, mais par contre, on le dit comme une langue poétique. Et ce qui permet de donner à l'ensemble comme une dimension tragique. On sort de la petite scène de ménage et on devient dans l'espace du tragique et de du moment fort de la pièce. Et je crois que c'est ça qui est important. D'un seul coup, ça devient une langue poétique.
Et donc, c'est une musicalité différente que lorsqu'elle est jouée à Québec.
Oui, d'ailleurs, ça surprend à chaque fois les auteurs quand ils viennent.
Parce qu'il était là, Steve Gagnon, oui, oui, à Avignon. Hein,
et en même temps, je pense que la vitesse, elle est très québécoise. Hein, donc, effectivement, Julie Duclos, Julie Sommer-Vogel, à ce rythme-là, cette capacité de parler très vite, un rythme comme ça, qui donne l'art de la rupture aussi, ce qui rend la chose drôle aussi. Hein, c'est qu'elle va tellement vite et d'un seul coup, hop, elle change de registre. Et ça, c'est très québécois.
Alors c'est un spectacle vivant, hein, dans tous les sens du terme, on est vraiment à 100 à l'heure, il y a une forme de tornade. D'ailleurs le décor lui-même, on a un peu l'impression qu'une tornade est passée dans cette salle de bain. Il y a des chaises éventrées, il y a des espèces de bâches en plastique, on est dans une sorte de chantier, quoi, de champ de ruines, on ne sait pas trop, quoi, comme si justement il fallait reconstruire finalement l'amour entre les deux personnages. C'est très métaphorique ce décor.
Oui, bah, c'est-à-dire que on a voulu partir de ça, c'est-à-dire cet homme après la trahison, puisqu'on parle de trahison, d'infidélité de sa part à elle.
On sait juste que ça, on n'a pas davantage
voilà,
de précision.
Voilà, et effectivement, c'est comme s'il s'était enfermé dans sa baignoire sous du plastique. Et finalement, bah, là aussi, c'est un décor en mouvement, mais en mouvement inversé, puisqu'il se déconstruit, se détruit au fur et à mesure pour amener la couleur et pour amener l'espace au fur et à mesure que cette relation essaie tant bien que mal de se renouer, de croire en l'amour finalement.
Mais l'amour, il n'a jamais disparu, il est toujours là. Vincent Gothals, dès la première réplique, ouais. On s'en rend compte.
Oui, parce que je crois que c'est vraiment une ode à l'amour. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans la pièce. Hein. C'est un peu rare aujourd'hui, c'est de dire que quand même, le pari, c'est de dire l'amour, on peut parier dessus, on peut parier sur la durée. C'est toutes ces questions-là que ça aborde. Et aussi, l'idée de la résistance, c'est C'est-à-dire qu'il y a deux questions parallèles, c'est-à-dire est-ce que face à une société qui est tellement agressante, est-ce qu'à deux on n'est pas plus fort ? Et je pense que finalement la pièce pose ces deux questions-là, c'est-à-dire est-ce que dans l'amour on peut croire à la durée ? Est-ce qu'on peut dire, alors que toute la société nous ferait croire que l'inverse, que passer toute sa vie avec la même personne c'est possible ? Et de la même manière, est-ce qu'à deux on n'est pas plus fort pour résister aux agressions du temps ?
J'ai peur de mourir puis que ça a été plate. J'ai peur de mourir puis de rien connaître. J'ai peur de mourir puis que c'est servi à rien. Que j'ai fait ça à moi. Que j'ai été ça à moi. Que j'ai servi à rien. Je suis dans une phase où j'entre dans quelque chose. En ce moment, je le sens là. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est là. C'est maintenant. Puis j'ai tellement la chienne, mon amour. J'ai tellement la chienne. Donne-moi ta main. J'ai envie de me battre. En fait, je sens ça comme s'il fallait ça. Comme s'il fallait que... Waouh, que je me batte. J'ai besoin de me battre contre je sais pas quoi. Mais je sais qu'il faut qu'il y ait ce mouvement-là de résistance. Pour garder la tête en dehors de l'eau. Sinon, c'est pas que je vais me noyer. C'est que je me rends compte que je flotte. Si j'arrête de bouger, je me rends compte que je flotte. Puis que c'est bon de flotter, que c'est facile de flotter, que c'est super cool, que ça se fait tout seul. Mais moi je trouve ça dangereux de flotter. Ça sert à quoi d'être vivant puis de flotter ? Ça sert à quoi d'être vivant puis de faire comme tout le monde puis de flotter ? Je vais flotter quand je vais être morte. Je veux pas faire du surplace pendant que je suis en vie.
Ben, ils sont jeunes, ils sont entiers, ils ont soif d'absolu, mais ils réfléchissent quand même, Vincent Goethals. Ça oui, c'est très étonnant.
Oui, c'est qu'on sent qu'ils ont une grande relation très profonde entre eux et que évidemment ils partent de cette mi-rupture. C'est un couple en plein bouleversement et en même temps on sent qu'ils ont tous les deux le même appétit de profondeur, de vérité, de relation vraie au monde et à la vie et c'est tout ce chaos-là se mélange mais pour finalement déclarer un grand amour.
Mais c'est très étonnant parce que on se dit que ben, quand on a un minimum de maturité, quand on a beaucoup vécu, on peut avoir justement ce regard critique sur l'amour. Et pourtant, quand on est jeune, on se dit ben on n'a pas forcément justement ce recul nécessaire là. Donc on est vraiment dans l'entre-deux.
Oui, ils sont dans cette contradiction, c'est-à-dire on est jeune, elle n'arrête pas de le dire, on est jeune.
Oui, elle le revendique.
Oui, et en même
donc
temps,
l'avenir est là.
Et pourquoi on a besoin de vivre comme des vieux, comme si c'était les habitudes qui faisaient qu'on existait, comme si. Donc effectivement, elle est vraiment dans elle beaucoup. C'est vraiment deux natures très différentes. Lui est un, il écoute beaucoup.
Il est beaucoup plus pondéré.
Oui, enfin il explose.
Mais de temps en temps, il explose aussi. Tandis qu'elle est toute en énergie.
Voilà. Elle, c'est une battante, elle veut reconquérir cet amour et donc il y a quelque chose d'énergique alors que lui est plus intérieur, plus et puis il est blessé. Je crois que lui est vraiment blessé. On sent la bête blessée qui a du mal à pardonner. Il le dit, est-ce qu'on se remet vraiment un jour d'une trahison ?
Mais donc il y a aussi la violence des mots parce que c'est une battante, hein, effectivement elle parce qu'ils n'ont pas de nom dans la pièce qui permet à chacun peut-être de s'identifier indifféremment à l'un ou à l'autre ou successivement d'ailleurs aussi peut-être à l'un ou à l'autre. Donc c'est une battante, c'est une combattante. Elle est extrêmement violente, violence des mots, violence des gestes, hein, aussi elle le frappe à plusieurs reprises, violence des corps. Et en même temps dans cette violence il y a une vraie forme de tendresse, comme si la violence était l'une des expressions de l'amour chez Steve Gagnon.
Mais il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement ça passe par la violence parce que les corps sont très importants dans cette pièce, hein. Donc évidemment on parle de c'est très ancré, c'est très sensuel, on sent que la sensualité est inhérente dans toute la pièce, mais elle passe d'abord par la violence, vous avez raison, et à un moment donné par la réconciliation. La réconciliation passe par les corps, elle a tout un magnifique monologue sur les mains en disant nos mots font mal et il n'y a que par nos mains qu'on va réussir à reprendre possession l'un de l'autre, et parce que tes mains font du cat power sur mon corps et c'est très touchant en disant c'est pas par les mots on s'abîme avec les mots, les mots nous dépassent et dépassent notre pensée et c'est vrai qu'à un certain moment il y a cette grande scène où d'un seul coup il y a plus que les corps qui s'aiment et on croit même que d'ailleurs c'est ça y est, la réconciliation est née, mais finalement c'est pas si simple.
Oui, c'est compliqué. Alors justement cette scène que vous évoquez, je la décris rapidement puisque nous sommes évidemment à la radio. Elle est assise nue dans la baignoire, lui il est debout et elle commence à le déshabiller.
Mon corps te reconnaît. Il te laisse entrer. Tu vois-tu ? Ah, il ne se défend pas contre toi. te laisse entrer. Comme une voiture entre dans un carporte. Mais je suis pas un carporte. Je me démonte pas après l'hiver comme un carporte. Je me démonte pas. Fait que... Arrête, s'il te plaît. Tes doigts, tes mains, ton souffle, ton odeur, ta peau sur la mienne. Mille oiseaux noirs qui se couchent sur le sable. Mais tu penses que tes mains, tu les poses tranquillement sur moi. Tu fais attention. Tu penses que tu y vas doucement. Tu penses que ça va. Tu penses que t'es cool, que tu peux faire ça, que tu vas lentement. Enfin, que tu peux faire ça. Mais va chier. Va chier. Rien de ce que tu poses sur moi, rien de toi qui entre en contact avec moi et tout. Ton regard, tes doigts, tes mots insipides qui tombent, tout à l'impact d'une moto qui rentre dans un orignal sur l'autoroute à toute vitesse en pleine nuit. Tout ce que tu poses doucement sur moi, ton regard, tes doigts, tes mots insipides qui tombent, tout à l'impact d'un avion qui s'écrase. Je vais pas continuer de parler. J'arrêterai plus jamais de parler. Il faut que je me concentre sur autre chose que tes mains. Continue de mettre tes mains où tu veux. Mais tu vas m'entendre te dire que tu me détruis. À l'infini.
Et là, vous êtes un magicien, Vincent Goethals, parce qu'avec vos acteurs, avec la chorégraphe aussi, Louise Hakim, avec qui vous avez travaillé, vous parvenez à rendre une baignoire poétique. Alors là, il faut que vous m'expliquiez comment vous avez fait.
C'était vraiment un moment totalement indispensable dans la pièce. Comme je vous le disais juste avant, les corps devaient se réconcilier. Et donc, effectivement, il fallait suggérer qu'ils fassent l'amour. Et donc, comment faire ça au théâtre? Je voulais vraiment pas que ça soit trash. Et je voulais que ça soit en même temps très sensuel et très suggestif. Et donc, effectivement, avec la chorégraphe Louise Hakim, on a travaillé dans cette baignoire avec tout un moment sur une chanson très belle. Où finalement les corps se réconcilient et en même temps il y a l'énergie de quand on fait l'amour et en même temps il y a la pudeur, c'est jamais voyeur, le spectateur n'est jamais mis en position de voyeur et en même temps c'est un tableau qui est magnifique et qui est indispensable dans leur parcours.
Mais je parlais de tornade tout à l'heure dans la salle de bain et c'est vrai que l'on a vraiment l'impression que les deux corps se meufent comme ça en spirale, alors il peut en sortir quelque chose de magnifique, il peut en sortir quelque chose de dangereux. Chacun peut effectivement lire avec ses propres yeux ce qui se passe et vous transformez donc cette baignoire en une sorte de lit d'amour, en une sorte de berceau d'enfantement aussi, de quelque chose de neuf. Quoi. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que ça colle bien à l'écriture de Gagnon avec ce côté prosaïque que vous décriviez tout à l'heure, qui se mêle comme ça à la poésie. La baignoire, elle est dans le texte ou bien c'est le metteur en scène que vous êtes qui a vu l'idée?
Je pense, d'ailleurs j'en ai parlé à Steve Gagnon, parce que j'ai déjà monté une autre pièce de lui, là, En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s'arrête pas, où là aussi il y avait une baignoire, et effectivement la baignoire est importante chez lui, par la sensualité de l'eau et par l'intime et l'intimité que ça dévoile. Et effectivement, ça me fait plaisir ce que vous dites sur, parce que tout le décor a été déchiré, il ne reste plus qu'un lambeau de plastique blanc et la baignoire devient presque un bateau qui flotte sur le débris de leur nuit. Et ça me fait plaisir que vous ayez senti ça.
Mais est-ce que c'est sensuel une baignoire? Est-ce que c'est poétique une baignoire? Parce que c'est tout en courbe aussi une baignoire.
C'est sensuel et c'est en même temps, elle est très petite. Hein, donc
non, eux, c'est très contraint, hein, parce que c'est un travail de précision. Alors c'est pas vous le chorégraphe, donc voilà, mais quand même, ça demande un jeu très particulier aussi.
Oui, oui.
Surtout qu'on joue nu en plus.
Donc, voilà, mais tout à fait. Et donc c'était vraiment le pari. Donc pour eux, ils ont souvent des questions par rapport à cette scène-là. Et c'est vrai qu'eux, ils disent, vous savez, on passe notre temps à compter dans notre tête, à faire des pas. Elle est tellement petite, cette baignoire. Et en même temps, tout ce qu'ils font est extrêmement précis. Donc, mais oui, c'est sensuel, une baignoire, et en même temps, c'est très prosaïque et très concret. C'est la réalité du couple de tous les jours, et donc c'est ça qui est beau, c'est
ouais,
les deux.
Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que la pièce nous touche autant. Il y a les mots, il y a les corps et puis il y a la musique aussi, hein, qui est très très présente dans ce spectacle, mais comme d'ailleurs dans l'ensemble de vos spectacles, Vincent Goethals. Les mots et les corps suffisent pas?
Ah, faut,
Un troisième médiateur pour l'émotion.
J'irais presque même un quatrième parce que les lumières sont tout aussi importantes.
C'est Philippe Catalano. Hein,
Philippe Catalano, lumière, Bernard Valéry au son, ce sont des complices de longue date. Et je pense qu'on reconnaît mes spectacles grâce à eux aussi, c'est-à-dire à la fois par le choix des auteurs qui sont toujours des poètes, et puis je pense par ma sensibilité propre. Et puis effectivement, c'est de là qui amènent leurs propres univers. Effectivement, pour moi, la musique est importante.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus justement que les mots ?
Ben, peut-être qu'on dit de mon théâtre qu'il est souvent cinématographique, parfois baroque aussi, et je crois que la musique, cette présence, et moi ce que j'aime beaucoup chez Bernard, c'est qu'il est tout le temps, c'est tout le temps en direct, c'est-à-dire il accompagne les acteurs, il n'est jamais devant, il est juste derrière, et donc ça suit le mouvement, c'est comme un partenaire supplémentaire pour les acteurs, et c'est ce qui fait que d'un seul coup, il y a quelques moments de silence où il n'y a plus de musique qui prennent d'un seul coup énormément d'importance, parce que d'un seul coup, il a plus de son derrière.
Alors Ventre, cette pièce, c'est la deuxième d'un triptyque autour des textes de Steve Gagnon, qui est donc venu à Avignon il y a quelques jours. Vous avez monté, pour commencer, vous le disiez il y a un instant, En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s'arrête pas, titre un tout petit peu plus long. Voici donc Ventre, titre un petit peu plus court, et donc il y aura donc un troisième. Vous avez déjà le titre?
Et donc justement, on est sur un triptyque sur l'intimité, hein, puisque on sait, le premier était un Britannicus revisité au cœur de la famille, comment la famille peut être destructrice et oui, vraiment destructrice, le couple avec toutes ces contradictions, et la prochaine sera sur l'amitié, et donc on est en train de chercher le titre, mais
pour qui sera long ou court?
Je sais pas, ça
c'est important un titre quand même.
Oui, c'est absolument.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous venez de dire on est en train de chercher le titre, autrement dit, contrairement aux deux précédents, vous allez vraiment collaborer très précisément sur le texte, y compris vous-même à l'écriture.
C'était vraiment, on a décidé avec Steve, est tombé en amour de toute l'équipe des deux acteurs, je pense qu'il a
comme un Québécois. Ouais.
Et ben voilà, il a trouvé dans mon regard sur son œuvre, je pense, un vrai complice d'un autre continent. Et donc, il nous a proposé vraiment d'écrire pour les deux équipes et qu'on passe un travail ensemble dès la genèse. Et donc, on sort là de 2 heures de travail pour que vraiment on ait un aller-retour et que dans 2 ans, on puisse proposer le troisième volet, mais qu'on a vraiment travaillé ensemble.
Avec les deux équipes, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les comédiens et les techniciens des premiers et deuxième spectacle, y compris vous, la chorégraphe, etc.
Voilà,
etc. C'est vraiment une aventure collective avec une dimension beaucoup plus importante, en force de registre là.
C'est-à-dire qu'en gros l'idée du triptyque, c'est un vrai projet de fin dramatique, hein, mais effectivement avec là une petite forme Ventre à 2 acteurs, la précédente était à 5 acteurs plus un musicien, et là ça sera 7 acteurs, un musicien, donc un gros projet, donc il faut bien 2 ans pour le préparer, avec un théâtre québécois, un théâtre belge et un théâtre français.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces écritures francophones, Vincent Goethals? Pourquoi est-ce que ce travail-là est devenu chez vous une forme de spécialité?
Je crois que j'ai souvent des soucis avec les traductions. Alors, et c'est pour ça que même si j'ai monté Noces de sang au château de Grignan l'année dernière, mais j'ai travaillé moi-même sur la traduction. Et c'est vrai que j'ai souvent des soucis sur la traduction parce que j'aime une langue poétique. Tous les auteurs que j'ai choisi de monter, que ce soit Claudel ou Coltès ou Daniel Danis ou H.D. Mouawad, c'est pas les mêmes langues, mais ce sont des langues qui ont des vrais souffles. Et c'est vrai que d'un seul coup, dès que je vois une traduction, j'ai l'impression d'une trahison du souffle. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup spécialisé dans les théâtres africains, théâtre belge, théâtre québécois, parce que d'un seul coup, on est à la genèse de la langue.
Et le théâtre francophone français, il vous intéresse moins et
oui,
vous avez
non.
besoin d'aller vers d'autres horizons?
En plus, c'est l'actualité. J'ai manqué beaucoup de pièces de Laurent Godet. Je lui ai commandé des pièces de Fabrice Melchiou. J'ai monté au moins 5-6 pièces de Fabrice. Donc, j'aime aussi les auteurs français, mais c'est vrai que j'ai des vraies accointances avec la Belgique, qui est presque ma deuxième patrie. Et puis, le Québec aussi.
Voilà, et donc ça tombe très bien puisqu'il se trouve que demain nous recevons Laurent Godet pour la pièce Nous l'Europe qui se joue dans le Hin. Je ne sais pas si vous êtes allé
Pas encore, mais je vais aller le voir.
Voilà, et Fabrice Melchiou sera avec nous vendredi, voilà, pour Hercule à la plage.
Vous les saluerez de ma part.
Voilà, donc on reste finalement en famille, hein, famille théâtrale s'entend bien sûr. Merci beaucoup Vincent Goethals d'être passé nous voir. Je rappelle que la pièce Ventre de Steve Gagnon est donc à l'affiche à 20h10 à l'espace Présence Pasteur ici à Avignon. Relâche ce soir. C'est pour ça que vous avez pu venir nous voir, ainsi que les 15 et 20 juillet prochains. Ça s'appelle Ventre et vous m'en direz des nouvelles.
Le Festival d'Avignon, le OFF.
Allez, on reste dans le off, donc avec Marjorie Bertin, l'une de nos reporters qui est allée voir « Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment », là aussi le titre est assez long, c'est d'une compagnie belge, justement, Clinic Orgasm Society, qui s'est associée à la compagnie française Théâtre Accru d'Alexis Armengol pour une écriture de plateau audacieuse et déroutante autour du réel. Reportage.
Trois personnages habillés en cow-boy qui préparent une fête dans une cuisine, avec de la vraie nourriture et des vraies bières. Ils se retrouvent pour la première fois, 15 ans après la disparition du plus jeune. Trois frères interprétés par Alexis Armengol, Ludovic Barthes et Mathilde Desmarais, qui sont également les metteurs en scène et les auteurs de la pièce. Dans ce spectacle étrange, fruit de ce qu'ils définissent comme un travail de laboratoire, ces trois artistes questionnent en la cassant la structure habituelle des pièces de théâtre. Le but est de faire réfléchir le spectateur à ce qu'on nomme le réel. Que croire sur une scène de théâtre et par extension dans la vie? Et ça marche. Dès les premières scènes, le spectateur ne comprend plus à quoi il assiste. Lorsque le plus jeune frère raconte qu'il est gravement malade, on s'aperçoit que les personnages testent ce récit comme des comédiens qui répéteraient une scène.
J'ai pas envie d'être courageux. J'arrête pas de me demander combien de temps il me reste. De quoi je peux encore profiter? Quoi choisir? Qui?
Bon, on vote?
Ah ouais.
Bon. Trois pour.
Ah ouais, bah oui, c'est très intéressant comme ça. Hein.
J'ai pas envie de parler d'émotion, mais là j'étais dans l'émotion. Si j'imagine une scénographie où les gens sont tout autour... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser... Vous connaissez Maurice Béjart?
Un spectacle qui laisse forcément la part belle à l'imagination du spectateur. Mathilde Desmarais nous explique pourquoi.
Nous, on aime bien que chaque spectateur puisse se raconter ce qu'il a envie. On essaye d'ouvrir un maximum les choses et pas fermer en disant « c'est comme ça que tu dois le regarder ». Chaque spectateur va vivre ce spectacle différemment, c'est ce qu'on aimerait en tout cas.
Mais le risque dans ce cas-là, c'est peut-être aussi de perdre le spectateur. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'éviter ça?
On balise quand même le chemin. Ça, c'est sûr qu'on ne part pas non plus dans tous les sens. Mais oui, c'est de la même façon qu'on est en cow-boy et on ne répond pas à ça. Et chaque spectateur va peut-être se raconter sa version de « Ah, pourquoi ils étaient habillés en cow-boy ?» Mais il y a plein d'autres choses, et puis là, il y a quand même une histoire.
Alexis Armengol.
Ça démarre avec quelque chose qu'on reconnaît de reconnaissable, puisqu'on prépare un apéro, une fête, on est ensemble. On l'entend d'ailleurs dans ce qui frémit dans la salle, de « Bah tiens, quand je dis qu'est-ce qui manque ?» On peut dire « Bah, il manque à boire, il manque ça, telle partie. » Donc, il y a quelque chose finalement qui fédère. Et ça pourrait être une façon de dire, alors jusqu'où on va accepter de dériver ensemble, jusqu'où on accepte de partir.
Une dérive qui interroge le réel sans jamais se prendre au sérieux et en allant de plus en plus loin dans l'absurde.
Tant que la porte du frigo est fermée, il y a 50% de chances que les apéritifs y soient. Et 50% qu'ils n'y soient pas. 50-50, tout reste possible alors. Alors qu'est-ce qui fait qu'il faudrait ouvrir cette porte? C'est ça la question, Léo. Qu'est-ce qu'on aurait à y gagner? Et ils perdent, hein, ils gagnent rien. Bon, aussi... Ça ne dit rien des possibilités multiples qui tourbillonnent à l'intérieur tout le temps de la vie.
Voilà, des tranches de réalité multiples donc à découvrir au Festival d'Avignon à la Manufacture à 15h35 jusqu'au 24 juillet 2019 avec des relâches prévus les 11 et 18 juillet. C'était Marjorie Bertin dans VMDN. Retour à Paris dans une poignée de secondes pour l'info sur RFI. Et nous serons demain toujours sur le pont à Avignon avec deux pièces qui nous parlent d'Europe contemporaine. Point de non-retour, Quai de Seine d'Alexandra Badea. C'est en ce moment au Théâtre Benoît XII dans le Festival In. Et toujours dans le Festival In, donc Nous l'Europe, un texte de Laurent Godet mis en scène par Roland Osé. C'est à voir au lycée Saint-Joseph, toujours en direct de l'Hôtel d'Europe. Décidément une émission très européenne demain pour VMDN. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles. Festival.